Chapitre 17. Une fois sorti du champ d'exclusion qui enveloppait la demeure d'Odysseus, Érée se téléporta directement au sommet d'Olympos. Tout autour du lac de la Caldeira, les pentes herbues et les colonnades blanches étincelaient à la douce lumière du soleil lointain. Poséidon, l'ébranleur du sol, se técut près d'elle.
« C'est fait. Le dieu du tonnerre est endormi. »
« Le dieu du tonnerre ne tonne plus qu'en ronflant, »
répliqua Érée.
« Et sur terre ?»«
Tout se passe comme prévu, fille de Cronos. Les conseils et les exhortations que nous avons murmurés aux oreilles d'Agamemnon et de ses capitaines vont bientôt porter leurs fruits. Profitant de l'absence d'Achille, qui campe comme à son habitude sur la plaine rouge à nos pieds, le fils d'Atrée exhorte ses troupes à se révolter contre les Myrmidons et autres alliés d'Achille encore présents dans le campement. Ensuite, ils marcheront sur les murs et les portes grandes ouvertes d'Ilium.
« Et les Troyens ?»
demanda Érée.
« Hector dort encore, épuisé par sa nuit de veille devant le bûcher funèbre de son frère. Énée se trouve au pied d'Olympos. » Mais il ne prendra aucune initiative contre nous en l'absence d'Hector. Déiphobe est aux côtés de Priam et discute avec lui des intentions des Amazones.
Et Penthésilée ?
Il y a moins d'une heure qu'elle s'est éveillée, ainsi que ses 12 compagnes. Et elles se sont armées en prévision du combat mortel qui les attend. Elles viennent tout juste de sortir de la cité sous les vivats pour traverser ensuite le trou de Bran.
Est-ce que Pallas Athénée les accompagne ?
Me voilà.
L'intéressé, caparaçonné dans sa splendide armure d'or, venait de se matérialiser près de Poséidon.
Penthésilée court à sa perte et à celle d'Achille. La confusion règne en maîtresse parmi les mortels.
Érée se tourna vers la déesse, posa une main sur son glorieux poignet armé d'or.
Je sais que cette tâche t'a été pénible, ma sœur d'armes. Achille est ton favori depuis le jour de sa naissance.
Pallas secoua sa splendide tête casquée.
Il a cessé de l'être. Ce mortel a menti en proclamant que j'avais tué et emporté son ami Patrocle. Il a levé son épée contre moi et contre tous mes frères et sœurs olympiens. Il me tarde de le voir partir pour les sombres cavernes de l'Hadès.
Quant à moi, c'est Zeus que je redoute.
Coupa Poséidon. Son armure d'un vert océanique était décorée de vagues, de poissons, de pieuvres, de léviathans et de requins. En guise de visière pour lui protéger les yeux, son casque arborait des pinces de crabe.
Grâce à la potion d'Héphaïstos, notre terrible majesté va passer 7 jours et 7 nuits à ronfler comme un porc,
dit Érée.
Il est vital pour nous de respecter ce délai pour parvenir à nos fins. La mort ou l'exil d'Achille ? La restauration d'Agamemnon à la tête des Argiens, la chute d'Ilium ou, à tout le moins, la reprise de la guerre sans le moindre espoir de solution pacifique. Alors, Zeus sera contraint d'accepter la situation. Sa colère sera néanmoins terrible,
dit Athénée. Érée s'esclaffa.
Tu oses évoquer devant moi la colère du fils de Cronos ? À côté de lui, Achille ressemble à un gamin braillard et capricieux. Mais laisse-moi le soin de m'occuper du père. Je me chargerai de Zeus une fois nos objectifs atteints. Maintenant, il faut...
Avant qu'elle ait pu achever sa phrase, d'autres dieux et déesses se manifestèrent sur la vaste pelouse qui s'étendait devant le hall des dieux, sur les rives du lac de la Caldeira. Des chars volants, tirés par des hologrammes de chevaux fringants, convergèrent de toutes parts pour se poser sur l'herbe. Les dieux et les déesses se répartirent en 3 groupes. Le premier se pressait autour d'Érée, d'Athénée, de Poséidon et autres champions de la cause grecque. Le deuxième se massait autour d'Apollon, le plus ardent défenseur des Troyens, de sa sœur Artémis, d'Arès, de sa sœur Aphrodite, de leur mère Leto, de Déméter et autres partisans d'Ilium. Quant aux membres du troisième groupe, ils n'avaient pas encore choisi leur camp. L'affluence quantique se poursuivit jusqu'à ce que plusieurs centaines d'immortels soient rassemblés sur la pelouse.
« Que faites-vous ici, vous tous ?»
s'écria Érée d'une voix amusée.
« Il n'y a donc personne pour garder les remparts d'Olympos ?»«
Tais-toi, intrigante !»
répliqua Apollon. «
C'est toi qui as ourdi ce complot visant à la chute d'Ilium. Et nul ne sait où se trouve le seigneur Zeus qui seul pourrait y mettre un terme.
Oh !
Fit Héré au bras blanc.
Le seigneur à l'arc d'argent est donc terrifié par les événements au point de vouloir se réfugier dans les bras de son père ?
Arès, dieu de la guerre, qui venait d'achever son troisième séjour dans les cuves de soins et de résurrection, conséquence de son troisième combat contre Achille, se plaça aux côtés de Phoebos Apollon.
« Femelle !»
gronda le tempétueux seigneur des batailles qui grandit jusqu'à atteindre une taille de 15 pieds.
« Si nous continuons à tolérer ton existence, c'est uniquement parce que tu es l'épouse incestueuse de notre seigneur Zeus !»
Héré partit d'un rire calculé pour être le plus irritant possible.
« Épouse incestueuse ! Voilà qui n'est pas sans ironie venant d'un dieu qui couche plus souvent avec sa sœur qu'avec toute autre femme, divine ou mortelle !»
Arès leva sa longue lance. Apollon empoigna son arc puissant et y glissa une flèche. Aphrodite saisit son propre arc, plus petit mais néanmoins meurtrier.
« Comptes-tu nous inciter à la violence contre notre reine ?»
demanda Athénée qui s'interposa entre Héré et les armes dressées contre celle-ci. Tous les dieux présents avaient activé leur champ de force personnel en voyant se lever arc et lance.
« Inciter à la violence ?»
répéta Arès le visage cramoisi.
Quelle insolence ! N'est-ce pas toi, Pallas Athénée, qui a naguère encouragé Diomède, fils de Tidée, à me blesser d'un coup de pique ? N'est-ce pas toi qui m'as frappé de ta lance immortelle, te croyant dissimulé par le nuage d'invisibilité que tu avais invoqué autour de toi ?
Athénée haussa les épaules.
Cela se passait sur le champ de bataille, et mon sang s'était échauffé.
C'est la seule excuse que tu as trouvée, immortelle salope !
Beugla Arès.
Ton sang s'était échauffé !
Où est Zeus ?
Demanda Apollon à Héré.
Je ne suis pas la gardienne de mon époux,
rétorqua Héré au bras blanc.
Même s'il en a parfois besoin.
Où est Zeus ?
Répéta Apollon, seigneur à l'arc d'argent.
Durant les jours à venir, Zeus ne se souciera plus des affaires humaines et divines,
répondit Héré.
Peut-être ne reviendra-t-il jamais ? C'est nous, les Olympiens, qui allons décider du sort du monde.
Sans lever son arc, Apollon y encocha une lourde flèche thermosensible. Thétis, la déesse de la mer, la Néréide, la fille de Néré, le seul et unique vieillard de la mère d'Achille, qu'elle avait enfantée du mortel Pélée, s'interposa entre les deux factions. Elle ne portait pas d'armure, n'étant vêtue que d'une robe ouvragée dont les broderies évoquaient algues et coquillages.
« Mes sœurs, mes frères, mes cousins, cessez là ce déchaînement de colère et de fierté qui risque de nous être néfaste à nous et à nos enfants mortels, et de nous valoir l'ire de notre Père Tout-Puissant qui reviendra un jour, car où qu'il se trouve, il reviendra un jour, rempli de colère et porteur de sa foudre meurtrière.
« Oh, la ferme !»
s'écria Arès, empoignant sa lance de la main droite comme pour se préparer à frapper.
« Si tu n'avais pas plongé ton lardon géniard dans le fleuve sacré pour le rendre immortel ou presque, Ilium aurait triomphé il y a 10 ans de cela !»«
Je n'ai plongé personne dans un quelconque fleuve !»
rétorqua Thétis, se dressant de toute sa hauteur et croisant sur sa poitrine ses bras aux fines écailles.
« Ce sont les Moires elles-mêmes qui ont promis mon cher Achille à son fabuleux destin. Peu après sa naissance, et suivant en cela l'impérieuse commande mentale des Moires, j'ai étendu mon fils dans le feu céleste, le purgeant de l'héritage mortel de son père par la douleur et la souffrance. Mais mon Achille, quoique encore bébé, n'a pas pleuré une seule larme. Toute la nuit durant, je lui ai infligé de terribles brûlures. Le jour venu, j'ai oint ces jeunes chairs calcinées de l'ambroisie même qui nous sert à rafraîchir nos corps immortels. Une ambroisie dont la puissance était renforcée par la secrète alchimie des Moires. Et j'aurais fait de mon bébé un immortel ? J'aurais réussi à lui offrir la divinité si je n'avais pas été surveillé par mon misérable époux, cet humain de Pélée, qui voyant notre fils unique se convulser au sein des flammes, l'a attrapé par le talon pour le soustraire au feu céleste quelques minutes à peine avant que puisse se parfaire sa déification. Alors, sourd à mes objections comme le sont tous les époux, ce crétin bien intentionné de Pélée a confié notre bébé à Chiron, le plus sage des centaures, et le mieux disposé envers les humains, le mentor d'innombrables héros, qui a veillé sur lui durant toute son enfance, le guérissant par des onguents et des simples connus des seuls centaures, puis le faisant grandir en force en le nourrissant de foie de lion et de moelle d'ours. Dommage que ce petit salopard n'ait pas péri brûlé vif,
commenta Aphrodite. Folle de rage, Thétis se précipita sur la déesse de l'amour, armée en tout et pour tout de ses ongles aussi coupants que des arêtes de poisson. Aussi calme que si elle jouait au tir à la cible lors d'un pique-nique en famille, Aphrodite banda son arc et logea une flèche dans le sein gauche de Thétis. La Néréide s'effondra, tuée sur le coup, et son essence prédivine s'éleva dans les airs tel un essaim d'abeilles noires. Personne ne se précipita vers elle pour la conduire d'urgence au guérisseur et à ses cuves grouillantes d'asticots bleus.
« Meurtrière !»
hurla une voix venue des abysses. Néré, le vieillard de la mer en personne, émergea des profondeurs insondables du lac de la Caldeira, où il s'était exilé 8 mois plus tôt, voyant que ses océans terrestres étaient envahis par les hommes et les morts avec.
« Meurtrière !»
tonna de nouveau le géant amphibien. Dressé au-dessus des eaux sur une hauteur de 50 pieds, ses boucles et sa barbe évoquant une masse convulsive d'anguilles sinueuses, il projeta sur Aphrodite un faisceau d'énergie pure. La déesse de l'amour creusa dans la pelouse une tranchée de 100 pieds de long. Et si le champ de force né de son sang divin la préserva de la destruction totale, il n'empêcha pas son corps adorable de souffrir de multiples brûlures et contusions avant de se fracasser sur 2 des colonnes du hall des dieux, puis sur le mur en granit de celui-ci. Arès, son frère aimant, planta sa lance dans l'œil droit de Néré. Poussant un rugissement si fort qu'on l'entendit jusqu'à Ilium et au-delà, le vieillard de la mer arracha lance et globe oculaire, puis disparut sous les vagues à l'écume rougie. Phoebos Apollon, comprenant que la guerre finale venait de commencer, leva son arc avant qu'Érée ou Athénée ait le temps de réagir et tira 2 flèches thermosensibles visant le cœur. Il était si rapide que même un œil d'immortel n'aurait pu percevoir son geste. Mais les flèches, forgées dans du titane incassable, enveloppées d'un champ quantique qui leur permettait de pénétrer dans un champ de force, se figèrent avant d'avoir atteint leur cible, puis fondirent. Apollon en resta bouche bée. Athénée éclata de rire, rejetant en arrière sa tête casquée.
« Tu as oublié, Dieu parvenu, qu'en cas de départ ou d'absence de Zeus, l'égide est programmée pour nous obéir, à Érée et à moi. Tu as ouvert les hostilités, Phoebos Apollon, »
dit doucement Érée au bras blanc.
« Éprouve à présent toute la force de la rage d'Érée et de la colère d'Athénée. »
Elle eut un geste à peine perceptible, et un rocher bordant le lac, qui devait peser une bonne demi-tonne, s'arracha au sol d'Olympos pour fondre sur Apollon, franchissant le mur du son à 2 reprises, avant de frapper l'archer à la tempe. Apollon s'envola dans un fracas tonitruant d'or, d'argent et de bronze, boulant sur une longueur de 7 perches, après quoi il s'immobilisa, ses boucles maculées de poussière et de boue. Athénée se retourna, lança une de ses javelines qui retomba de l'autre côté du lac de la Caldeira, transformant la demeure d'Apollon en champignons de fumée, et ses débris de marbre, de granit et d'acier montèrent vers le champ de force protégeant le sommet. Déméter, la sœur de Zeus, lança vers Érée et Athénée une onde de choc qui ne fit que rebondir sur leur égide palpitante, mais qui catapulta Héphaïstos sur une hauteur de 300 pieds, l'envoyant atterrir loin du sommet d'Olympos. En guise de représailles, Hadès à l'armure rouge projeta un cône de feu noir qui oblitéra tout sur son passage, les temples, mais aussi la terre, l'eau et l'air. Les 9 muses le rejoignirent en hurlant. Des éclairs jaillirent des chars surgis du néant, et Athénée déploya tous les chatoiements de l'égide. Ganymède, l'échanson des dieux, qui n'était pas entièrement immortel, fut pris sous le feu et hurla comme sa chair divine embrasée se détachait de ses eaux mortelles. Eurynomée, fille d'Océan, se rallia au camp d'Athénée, mais succomba sous les assauts d'une 12aine d'Érinès qui convergèrent sur elle telles de gigantesques vampires. Elle eut le temps de pousser un cri, puis elle fut emportée loin du champ de bataille, par-delà les demeures incendiées. Les dieux gagnèrent qui un abri, qui son char. Certains choisirent de se têcu, mais la plupart se regroupèrent en 2 camps antagonistes de part et d'autre du lac de la Caldeira. On vit fleurir des vagues d'énergie rouge, verte, violette, bleue, dorée, irisée, à mesure que divers dieux fusionnaient leurs champs personnels pour façonner des boucliers collectifs. Jamais les dieux ne s'étaient affrontés de cette manière. impitoyable, il ne faisait pas de quartier, oubliant jusqu'à la considération qu'un dieu peut avoir pour un autre vaincu, doutant de la possibilité d'une résurrection aux multiples mains du guérisseur, d'un simple séjour dans ses cuves de soins, et ne craignant plus l'intervention de Zeus le Père. D'ordinaire, le maître de la foudre était toujours là pour les retenir, les cajoler, les menacer, afin qu'ils évitent de tuer leur prochain. Aujourd'hui, ils avaient la bride sur le cou. Poséidon se técut sur terre pour superviser la destruction de Troie par les Achéens. Arès se leva, laissant derrière lui un sillage 10 cordes dorées, et rallia à lui une 60aine de dieux outragés, tous fidèles à Zeus, tous partisans de Troie. Héphaïstos se téléporta sur le champ de bataille, y répandant un banc de brume noire et délétère. La guerre des dieux qui débuta en cet instant se répandit en quelques heures sur la totalité d'Olympos et jusque dans Ilium. Lorsque vint le crépuscule, le sommet d'Olympos était en flammes et une partie du lac de la caldeira s'était vaporisée, la lave venant remplacer l'eau.